les navires de guerre iraniens en Caspienne, un cessez-le-feu a été signé entre le djihad islamique et le régime sioniste, et au Mali, 4 soldats, 2 civils et 5 terroristes ont été tués dans des combats à Tessit. C'était les principaux titres, en voici le journal. Les frégates lance-missiles Peikan et Joshan de la marine iranienne sont arrivées à Bakou dimanche 7 août pour participer à la compétition SICAP qui se déroulera dans les eaux territoriales de la mer Caspienne de l'Azerbaïdjan dans le cadre des compétitions Jeux internationaux de l'armée 2022, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Les 2 frégates et l'équipage à bord ont été accueillis par les autorités de la marine azerbaïdjanaise. La présence de frégates de l'Iran à Bakou a eu lieu alors qu'en septembre de l'année dernière, Bandar Anzali, dans le nord de l'Iran, a accueilli la compétition SICAP à laquelle des représentants de différents pays, dont la Russie, le Kazakhstan et la République d'Azerbaïdjan, ont pris part. Ces dernières années, la marine de la République islamique d'Iran a fait de grands progrès vers l'autosuffisance dans la construction des navires, en particulier les navires de combat, y compris la frégate Separ P-234, qui a été livrée le 5 décembre 2017 à la flotte du nord de la marine iranienne. Au total, 4 navires lanceurs de missiles de classe Peikan sont conçus et fabriqués par des spécialistes de la marine iranienne étant opérationnels dans la flotte du nord de la marine iranienne en mer Caspienne. L'Iran a participé en juin dernier au 6e sommet des pays riverains de la mer Caspienne, organisé dans la capitale du Turkménistan. Presque un mois plus tard, en juillet, la marine iranienne a participé à l'exercice maritime de sécurité durable 1401-2022, qui a débuté le vendredi 8 juillet, avec la participation de diverses unités de surface et aéroportées de la marine de l'armée, y compris des destroyers, des hélicoptères et des drones basés en mer et des systèmes de guerre électroniques, ainsi que des unités de marine et de commando de la marine de l'armée. L'Iran ne cherche pas à posséder des armes nucléaires, c'est ce qu'a réitéré le dimanche 7 août le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les armes nucléaires n'ont pas de place dans la doctrine de la République islamique d'Iran et sont contraires à notre politique et à nos convictions, a affirmé M. Amir Abdollahian. Il a appelé à la mise en œuvre de tous les aspects du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, un traité international historique dont le but est le désarmement nucléaire. Il a ajouté que la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient devait faire l'objet d'une sérieuse réflexion et que l'Iran était prêt à coopérer à cet égard. Concernant les négociations en cours à Vienne sur la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015, il a déclaré que l'Iran souhaitait sérieusement parvenir à un accord solide et stable, mais que le résultat des pourparlers dépendait également de la volonté de conclure un accord de Washington ainsi que de sa flexibilité et de son réalisme dans la pratique. Un nouveau cycle de pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire a débuté jeudi 5 août à Vienne après une interruption de 5 mois. Un cessez-le-feu a été signé avec la médiation égyptienne entre le djihad islamique de la Palestine et le régime sioniste. Le mouvement de résistance palestinien djihad islamique a accepté dimanche 7 août de conclure un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui a débuté à 23h30 heure locale, 20h30 GMT. Cette annonce intervient après que des médiateurs égyptiens ont réussi à négocier un cessez-le-feu entre les 2 parties palestiniennes et israéliennes au terme de 3 jours d'attaques israéliennes et de tirs de roquettes depuis Gaza en représailles. Les avions de guerre israéliens lancent depuis vendredi des frappes aériennes contre la bande de Gaza en invoquant, comme le prétend l'armée israélienne, une menace imminente d'attaques émanant du groupe djihad islamique de la Palestine. Au moins 43 Palestiniens ont été tués, dont 15 enfants et 4 femmes, et plus de 310 autres blessés lors de l'offensive israélienne, selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé. Ces attaques interviennent dans un contexte de recrudescence et des tensions dans les territoires palestiniens, après l'interpellation de Bassam al-Sadi, un non-dirigeant du djihad islamique, lors d'un raid israélien mené en début de semaine dans la ville de Jenin, en Cisjordanie occupée. En réponse, le djihad islamique de la Palestine et d'autres militants de Gaza ont tiré plus de 950 roquettes sur des villes du sud et du centre d'Israël. Les hostilités ont contribué à une situation d'urgence humanitaire. Les points de passage vers Gaza ont été fermés et les pénuries d'électricité affectent les installations et les fournitures essentielles. Des centaines de bâtiments et de maisons ont été détruits ou endommagés, laissant des milliers de Palestiniens sans abri. Samedi soir, l'armée de l'air israélienne a pris pour cible sans avertissement une maison de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tuant deux Palestiniens et blessant plus de 30 autres, ont indiqué des sources de sécurité palestinienne. Par ailleurs, au moins 5 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées et 15 autres blessées samedi soir par une explosion dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, toujours selon des sources palestiniennes. Une puissante attaque avec des tirs indirects a visé dimanche 7 août une grande base de l'armée turque située près de la ville de Kaljibarin, dans la campagne nord d'Alep en Syrie. La base a été la cible d'au moins 10 projectiles qui ont été tirés depuis une zone voisine détenue conjointement par les forces démocratiques syriennes et FTS, dirigées par les Kurdes et les forces gouvernementales syriennes. Plusieurs militaires turcs ont été blessés ou tués à la suite de l'attaque. Le principal dépôt de munitions de la base a également explosé. L'attaque a probablement été menée par les FTS en réponse à l'attaque de drones turcs du 6 août sur la ville de Ramishli, dans la campagne nord de Hasakeh. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type en moins de 24 heures. Le 6 août, 4 soldats turcs et 3 mercenaires syriens à la solde d'Ankara ont été blessés à la suite d'un tir indirect sur une base militaire turque près de la ville d'Inap, dans la campagne nord d'Alep. Le même jour, une explosion a détruit un camion dans la ville de Ramishli, dans le nord-est de la Syrie, qui est détenu conjointement par les forces gouvernementales syriennes et les FTS. L'explosion a eu lieu dans le quartier d'Al-Sina, contrôlé par ces dernières. Une personne a été tuée et au moins 3 autres ont été blessés. Selon l'agence de presse Avar et plusieurs autres sources, l'explosion était probablement le résultat d'une frappe par drone de combat turc qui survolait Ramishli au moment de l'accident. C'est une riponse à l'attaque contre la base de l'armée turque près de la ville d'Inap, dans le nord de la Syrie. 4 soldats maliens, 2 civils et 5 terroristes ont été tués dans des combats à Tessit, annoncé dimanche 7 août dans un communiqué la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Vers 15h GMT, les unités des forces armées maliennes de Tessit, à Sango, région de Gao, ont réagi vigoureusement contre une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, GAT, a indiqué le communiqué. La DIRPA a précisé que le bilan provisoire fait état de 4 morts et de blessés parmi les femmes, avec plus de 3 véhicules détruits. Elle a aussi déploré 2 morts et 2 blessés parmi les civils. Du côté des GAT, le bilan provisoire est de 5 morts et 3 motos détruites. Le Mali et la Guinée sont convenus le samedi 6 août sur l'approvisionnement du Mali en carburant, la fluidité au niveau des coopérations douanières, un projet de chemin de fer reliant les deux pays ainsi que sur les tracasseries au niveau des postes de sécurité. Ce sont entre autres recommandations issues d'une séance de travail entre une délégation ministérielle guinéenne et la ministre malienne des Transports et des Infrastructures. Cette délégation ministérielle guinéenne, conduite par le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence, porteur d'un message du président de la transition de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a été reçu en audience samedi par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Ce qu'exige l'Iran de l'Europe en échange de son pétrole. Alors que le nouveau cycle de pourparlers à Vienne pour relancer le plan d'action globale conjoint entre dans sa 4e journée, les hauts diplomates tiennent des réunions séparées avec des responsables européens pour finaliser les termes de l'accord sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran. Reste à savoir si les parties occidentales seront en mesure d'apporter ou non les garanties nécessaires à leur adhésion à l'accord nucléaire. Bien que les détails du plan proposé par Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, n'ait pas encore été révélé, quoi qu'il en soit, vu des promesses précédentes non tenues par les Américains et les Européens dans la mise en œuvre du plan global d'action conjoint, toute proposition pour la partie iranienne ne sera acceptable à moins qu'elle comprenne des solutions pratiques pour résoudre ses préoccupations sur quelques questions. La première préoccupation de Téhéran, pour laquelle apparemment les Américains n'ont pas encore proposé de solution, est de garantir la survie du plan global d'action conjoint, le PGAC. La partie américaine a violé l'accord une fois, et les représentants républicains ont déjà menacé de diverses manières, y compris des déclarations orales, que le nouvel accord subirait le même sort que l'accord précédent, si un président républicain est nommé au prochain tour des élections américaines. Du point de vue des négociateurs iraniens, le nouvel accord nucléaire ne pourra attirer la coopération des banques et des entreprises inverses, au risque au niveau international que s'il est doté de mécanismes empêchant la répétition de l'expérience passée, il deviendra une fois de plus un document avec des obligations supplémentaires imposées au programme nucléaire de l'Iran. Une autre préoccupation de l'équipe de négociation iranienne consiste à la levée complète de toutes les sanctions avec une vérification des faits. Les négociateurs iraniens affirment que si le PGAC doit être pleinement mis en œuvre, il devrait apporter de réels avantages économiques à l'Iran, contrairement aux sanctions économiques contre l'Iran causées par le manque d'engagement de la partie occidentale. Une autre question importante est liée à l'accès de l'administration américaine à divers outils juridiques à l'aide desquels elle peut sacrifier la mise en œuvre de l'accord nucléaire à son profit en conservant certains leviers de pression contre l'Iran, comme les soi-disant questions de garantie en suspens de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La République islamique d'Iran a déclaré que, bien qu'elle soit prête à parvenir à un accord, elle ne reculera pas pourtant dans la poursuite de ses intérêts.